L'heure de moi en temps universel.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes témoins et acteurs de l'histoire. Depuis plus de 20 ans, la Fondation Hirondelle initie des médias indépendants en zone de crise, une saga radiophonique que nous vous proposons de revivre sur RFI en cette journée mondiale de la radio.
L'idée, c'est vraiment d'avoir une structure qui va produire pour tous les Nigériens, qui est produit par les Nigériens eux-mêmes, pour tous les Nigériens, incorporant aussi le point de vue des régions avec le réseau de correspondants qui se trouve là-bas.
Pauline Bend, chargée de mission pour la Fondation Hirondelle.
Et c'est vraiment ce qu'on veut faire passer aux journalistes qui vont travailler ici. On voudrait que l'information qui soit proposée, qu'elle soit diffusable par toutes les radios, sans aucune crainte d'être taxée, d'être de tel ou tel bord, sans aucune crainte de non-crédibilité, parce qu'on aura vérifié, parce qu'on aura pris le soin aussi de donner la parole à tous les camps possibles, quoi. Donc une grosse partie de notre programme sera focalisée sur les élections. C'est une période sensible, c'est une période où plus que jamais il faut donner vraiment une information équilibrée, non attaquable. Vraiment l'espoir, hein, c'est que ça dure bien au-delà des élections et que ça soit repris et après ancré véritablement dans le contexte local.
Studio Kalangou, c'est le dernier né de la Fondation Hirondelle. Le studio Kalangou vient de prendre son envol depuis Niamey au Niger. Écoutez les titres de son tout premier journal, c'était le 18 janvier dernier.
Le lancement des programmes d'information du studio Kalangou ce 18 janvier. Studio Kalangou, un projet mis en place par l'ONG SUS Fondation Hirondelle et ses réseaux de radio partenaires dans tout le Niger. Studio Kalangou, c'est 3 quarts d'heure d'information et de magazine consacré à l'actualité nigérienne tous les jours en Hausa, Zarma et en français. À retrouver à Niamey et dans toutes les capitales provinciales du pays sur vos radios. À suivre également sur le site internet de la Fondation Hirondelle, www.hirondelle.org. L'Association nigérienne des personnes du tourisme et de l'hôtellerie appelait aujourd'hui à un arrêt de travail, un geste de compassion aux victimes des attentats de Ouagadougou, mais également pour soutenir les propriétaires des bars et restaurants saccagés lors des événements anti-Charlie il y a tout juste un an. Vous entendrez à ce sujet le directeur d'un hôtel. Le championnat de lutte traditionnelle édition 2016, c'est Kadri Abdou, le champion de la lutte traditionnelle édition 2016. C'est Kadri Abdou, connu sous le nom de Isaka Isaka, qui a remporté une fois de plus le sabre national chez lui à Dosso. Son portrait dans quelques instants. Et puis on l'appelle Dondon en Zarma, Kalangou en Hausa, cet instrument de musique qui a donné son nom à notre studio se retrouve un peu partout au Niger. La page magazine de ce journal sera consacrée à la découverte du Kalangou.
Bonjour Jean-Marie Aiter.
Bonjour.
Vous êtes l'heureux directeur général de la Fondation Hirondelle et vous allez nous accompagner tout au long de cette émission pour revivre avec les auditeurs de RFI plus de 20 ans de radio indépendante en zone de crise. Alors j'aimerais tout d'abord rappeler que vous êtes vous-même un homme de radio, journaliste à partir de 1973 à la radio suisse romande et que vous avez vécu votre enfance au Moyen-Orient. Quels sont vos premiers souvenirs de radio ?
Les tout premiers souvenirs, c'est évidemment au Liban. Adolescent et jeune étudiant, j'écoute avec mes camarades les différentes radios internationales surtout, en arabe je comprenais pas suffisamment, mais internationales surtout, et que nous jouions à comparer ce que disaient les uns et les autres, et à essayer de deviner quelles étaient leurs arrière-pensées, leurs intentions.
Déjà journaliste?
Oui, j'ai toujours rêvé d'être journaliste.
Alors vous travaillez dans la radio suisse de service public dès l'âge de 22 ans, vous faites carrière, vous devenez grand reporter, et en 1994, comme tous les journalistes qui s'intéressent à l'Afrique, vous êtes choqué par le rôle que joue la radio dans le génocide des Tutsis au Rwanda.
Les jeunes de Gun, à Kanukatera, ils veulent pour le Mouji à Tigali.
Je vous traduis cet extrait. Autour de Pâques, quelque chose va se passer à Kigali. Ce sera probablement autour du 7 avril. Alors vous entendrez le bruit des balles, vous entendrez exploser les grenades. J'espère que les forces armées rwandaises sont prêtes, car les vautours pourront se régaler. C'est la radio des Mille Collines qui donne le signal du génocide des Tutsis au Rwanda. 800 000 personnes perdront la vie en 3 mois. Génocide couvert par votre ami, le journaliste Philippe Daïden. Comment sort-il de cette expérience et comment en vient-il à imaginer ce qui deviendra la première radio hirondelle, Jean-Marie Etter?
Il se rend au Rwanda qu'il connaissait, puisqu'il y avait été en tant que juriste en mission pour la Commission internationale des juristes, et il revient démoli parce que parce qu'il a vu tout simplement qu'il est effectivement un paroxysme d'horreur humaine. Il y a été en tant que journaliste, il y revient en se disant « je peux plus faire ce métier, je peux plus faire un métier où je vais quelque part, je vois des choses que je rapporte et je reviens, je vis ma vie normale et je reprends autre chose, je vais couvrir un autre terrain ». Humainement, ça ne lui était pas possible et il voulait faire quelque chose pour le Rwanda. Alors on aurait pu faire d'autres choses, mais on s'est dit peut-être qu'en tant que journaliste, nous avons quelque chose de possible.
Écœuré par le rôle de la radio des Mille Collines, Philippe Daïden a une idée. Une radio de paix pour contrer les radios de haine. Il recrute des journalistes locaux, Hutus et Tutsis. Il convainc des amis journalistes et techniciens suisses de monter une radio avec des bouts de ficelle.
Un seul appareil de radio permet à 1000 personnes de suivre ce que dit la radio. Parce que dans cette région du monde, la radio, c'est la seule source d'information.
Au Rwanda, la colombe de la paix est une hirondelle. Hirondelle se dit Agatashya en Kinyarwanda. Radio Agatashya est née. De l'autre côté de la frontière rwandaise, à Bukavu, le Zaïre à l'époque. Les débuts sont modestes. 3 heures d'émission le matin, 3 heures l'après-midi en Kinyarwanda, Swahili et français. L'expérience de Radio Agatashya aura démontré qu'une radio qui ne penche pas, comme disent les Rwandais, est possible.
Alors c'est à partir de cette première Radio Agatashya, Radio Hirondelle, que vous allez imaginer la fondation Hirondelle avec Philippe Daïden et François Grosse. Alors nous sommes en 1995, après le génocide des Tutsis du Rwanda, et c'est aussi la décennie des conférences nationales en Afrique, c'est aussi la naissance du multipartisme, c'est aussi la libéralisation des médias. Alors à l'époque, Jean-Marie Etter, avec vos potes journalistes, comment vous envisagez votre rôle? Comment vous envisagez cette fondation Hirondelle? Pour répondre à quels besoins?
Au départ, nous ne voulions pas grandir. On n'avait pas vraiment l'intention de faire une fondation. On voulait rendre ce service-là. Nous l'avions lancé parce que nous étions membres de Reporters sans frontières, de la section suisse. C'était cette section-là qui a lancé cette radio. Ensuite, il y a eu un différend entre Reporters sans frontières et nous. Nous sommes restés membres individuels de Reporters sans frontières. Nous avons quitté la section suisse où nous avions des responsabilités. Nous avons démissionné de ces responsabilités. Et puis, nous avions toujours une radio à faire vivre. Donc, c'est pour faire vivre cette radio que nous avons créé la fondation, sans idée a priori de travailler ailleurs. Et l'idée alors était tout de même de nous donner la possibilité de travailler ailleurs si besoin était, s'il y avait quelque chose qui se faisait. Et donc, dans les statuts, dans l'intention première, de définir le type de journalisme, le type de service que nous voulions rendre.
Quel était votre différend avec Reporters sans frontières à l'époque?
Ben, Reporters sans frontières était très centralisateur, avec un secrétaire général qui est bien connu en France et qui s'appelle Robert Ménard, qui a un tempérament très centralisateur et il ramenait beaucoup de choses à notre avis, à lui-même. Et il avait son idée de ce qu'il fallait faire. Et nous avions une idée, à vrai dire, assez différente.
Et votre idée à vous, comment vous pourriez la résumer, au fond ?
Nous ne voulions pas avoir une radio d'Européens. On voulait avoir une radio faite par les Rwandais, puisque nous étions à Bukavu aussi, par ceux qui, à l'époque, s'appelaient encore les Aïrois, mais faite par les gens de la région, pour les gens de la région, avec notre aide. Mais ce n'était pas notre radio.
Et depuis, Jean-Marie Etter, vous avez soutenu la création de nombreux projets, bientôt une vingtaine, depuis Star Radio Liberia ou Radio Népal au Népal, jusqu'à Radio Okapi en République démocratique du Congo, ou plus récemment la création de la Radio Nationale Tunisienne, avec toujours le même principe, celui de l'accompagnement des jeunes journalistes locaux. Un des projets emblématiques et durables de la Fondation Hirondelle, c'est Radio Dekeluka en République Centrafricaine. Et j'en profite pour saluer tous ces auditeurs qui nous écoutent également sur RFI. Pour les journalistes centrafricains de Dekeluka, l'obstination est une vertu.
La radio de tous les Centrafricains.
La Centrafrique, on y est depuis 2000.
Caroline Villemain, directrice des opérations de la Fondation Hirondelle.
Tous les jours, à travers des programmes, on a facilité le dialogue, on a donné des informations à une population. Et malgré ça, la violence est revenue. Les crimes les plus inhumains ont eu lieu en 2013-2014. Donc on pourrait se dire, mais en fait, à quoi on sert ? Je pense que Dekeluka n'a pas permis que les massacres soient évités. Mais par contre, elle a été un réconfort, elle a été une boussole. Et elle est toujours pour cette population pendant la crise, là. On a eu vraiment des témoignages de personnes au cœur de la crise en décembre 2013 qui nous disaient, mais j'écoute Dekeluka, ça me fait du bien. Parce qu'ils n'avaient plus aucun repère. Et ils savaient que s'ils allumaient leur radio, à 8 heures, ils auraient le journal avec leur animateur, avec leur présentateur. Puis ça permettait de remettre des repères dans leur vie.
La radio de tous les Centrafricains.
Et le 21 octobre 2014, RFI consacre son grand reportage à la radio centrafricaine Dekeluka.
Elesongo, un magazine consacré à la recherche de la paix et la réconciliation nationale en Centrafrique.
Radio Dekeluka à Bangui, l'un des médias les plus écoutés du pays. Ici, depuis le mois de juillet, le programme phare s'appelle Elesongo, une émission consacrée à la réconciliation. Au micro, le journaliste Samuel Bogoto.
Le principe de l'émission, c'est que les invités, il faut naturellement avoir un membre de la communauté islamique. Parce que nécessairement, il y a un problème dans le pays et il faut que ces voix discordantes-là se retrouvent autour de cette émission et se parlent. Mais c'est vrai qu'en commençant par là, pour attendre l'éventuel dialogue national dont on parle, mais nous avons déjà commencé à jeter les bases.
Voici la rubrique Table ronde.
Bienvenue à la table ronde de...
Comme la plupart des journalistes, Samuel est à la fois acteur et victime de la crise. Jusqu'en décembre dernier, il était correspondant à Boali, au nord-est de la capitale, mais a dû être exfiltré en urgence et quitter sa famille après avoir reçu des menaces de mort de la part de la Séléka.
En embrassant cette profession, je sais que d'un mat à l'autre, je peux perdre ma vie. Ah, mais si on a peur aussi, on se fie au risque certainement qu'on n'aura pas fait notre boulot. Donc pour moi aujourd'hui, je parle de la réconciliation. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances qu'on a endurées dans la vie, on peut aussi faire la paix, on peut aussi oublier. Je crois que je suis en train de rendre service à mon pays et je suis fier de le faire.
Voilà, au fait, bon, nous sommes là dans la salle de rédaction. Alors là, vous voyez, là derrière, c'est affiché. Nous sommes neutres. Pas de religion, pas de musique religieuse, pas d'opinion à l'antenne.
Ali Silla est le rédacteur en chef de la radio.
Dans chaque travail qui est fait, que ce soit au niveau des journalistes, que ce soit au niveau des animateurs, même si c'est au niveau de l'administration, nous devons nous rappeler toujours ces mots-là pour parler de l'indépendance de la radio, de la neutralité de la radio.
En Centrafrique, très peu de journalistes ont eu la chance d'être formés. Ceux de Radio Dekeluka sont parmi les plus aguerris du pays, mais très peu étaient préparés à gérer une telle crise. Une crise où, devant la faillite de l'État, leur radio est devenue peu à peu le refuge de tous les traumatismes.
Les gens ne savent plus aller. Le matin, on peut avoir une trentaine de personnes là. Quand on arrive à la radio, chacun vient un peu expliquer les exactions dont ils ont fait l'objet dans le quartier. Et donc chacun vient un peu expliquer ce qui s'est passé. Et donc du coup, les gens ils se disent au moins, même s'il n'y a pas un procès tout de suite, même s'il n'y a personne pour nous écouter, mais l'essentiel pour nous c'est de parler. Au fait, les gens, ils prenaient la radio un peu comme l'unique moyen pour eux de se libérer de la haine qu'ils avaient, quoi, du poids qu'ils avaient par rapport à tout ce que la Séléka était en train de faire.
Extrait du grand reportage de Florence Maurice, tourné en pleine crise centrafricaine à Bangui. Alors bien sûr, Jean-Marie Ether, la radio centrafricaine d'Ekeluka, c'est un projet qui dure dans le temps, une radio écoutée, crédible, mais une radio également vulnérable. On l'a vu avec les différentes crises depuis 2012.
Extrêmement vulnérable et extrêmement solide en même temps. Extrêmement vulnérable parce qu'effectivement, elle dérange, bien sûr, elle dérange les pouvoirs, elle dérange les clivages. On est dans une société qui est... Je dirais pas qu'elle est en conflit malgré la guerre. C'est pas une société qui est porteuse à l'origine de conflits. C'est une société où le conflit s'est développé, a augmenté, a été attisé soit de l'extérieur, soit par des phénomènes intérieurs, d'irritation, de choses insupportables, et donc de réaction. Et le mot réaction est évidemment essentiel. C'est ce qui conduit au clivage, ce qui conduit à la séparation, ce qui conduit au refus de l'autre, et ça peut aller, le refus de l'autre peut aller jusqu'à l'assassiner. Et dans un climat de ce genre, une radio qui reste, exactement comme le disait Alice Silas, non partisane, qui n'a pas de parti pris religieux, qui n'a aucun parti pris, qui essaye d'être le plus rigoureuse, le plus factuel possible, de dire les choses, mais de les dire en respectant tout le monde, quels que soient les acteurs. Une radio de ce type dérange l'envie de réagir et d'être violent, et en même temps, elle fait du bien, comme le disait Caroline, à des millions de gens, à des milliers de gens qui l'écoutent, qui en ont besoin, et qui ont besoin d'informations. Et je dirais que ça, c'est le mot de service a été utilisé, c'est fondamental, parce que on n'est pas simplement dans une utilité, dans quelque chose qui est utile. On est dans quelque chose qui est nécessaire, qui répond à un besoin, et un besoin vital dans une société qui est une société qui peut aller dans n'importe quel sens, qui peut aller dans le sens de la conciliation, qui peut de la construction commune, ou qui peut aller dans le sens de la violence et de l'explosion.
Et avec une difficulté certaine pour la rédaction, notamment de Nkeluka, c'est de continuer à faire son travail de journaliste au sein même de la situation de crise, parce que c'est une chose que de monter un projet radiophonique post-crise dans une idée de la réconciliation, mais c'en est une autre que de continuer à faire son travail quand on ne peut pas forcément aller dans les quartiers où l'on souhaite aller, etc., etc. Donc là, la mission du journaliste se redéfinit à nouveau, et on l'a entendu aussi dans ce reportage, très peu d'entre eux sont formés. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter à ce moment-là?
Il y a trois difficultés que nous pouvons aider à résoudre. La situation que vous décrivez est celle de tous les terrains de guerre, avec la différence de ce que nous vivons, journalistes européens, quand nous allons sur un terrain, nous y allons, puis ensuite nous revenons.
Nous repartons.
Et là, ce sont des gens qui vivent.
Ils restent.
Localement. Mmh. Et là, ils sont confrontés à trois difficultés. D'abord, celle simplement de leur propre sécurité, et c'est une difficulté énorme. Il faut un courage extraordinaire pour aller jusqu'à la radio quand il y a un danger de mort. Ensuite, il y a une deuxième difficulté qui est celle du type de journalisme que vous faites. Vous ne faites pas là le même journalisme que celui que nous faisons ici. Ce n'est pas possible. Ici, le risque majeur que nous courons, c'est peut-être éventuellement d'aller en prison avec sursis parce qu'on a porté atteinte à l'honneur de quelqu'un. Là-bas, c'est la mort. C'est donc un tout autre type. Et puis ensuite, il y a le danger ou la difficulté qui est celle de n'importe quelle entreprise locale. C'est la difficulté de vivre, de survivre, de faire vivre une famille, d'avoir un salaire.
La journée mondiale de la radio, c'est dans la marche du monde sur RFI. Nous revivons 20 ans de radio en temps de crise avec la Fondation Hirondelle.
Commencerons. Il est 14h33 à Paris.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Produire une information fidèle à la réalité est un frein à la violence. C'est la leçon tirée par la Fondation Hirondelle après plus de 20 ans d'expérience en situation de conflit aux quatre coins de la planète. Et c'est la suite de la marche du monde dans cette journée mondiale de la radio. Rappelez-vous, 1991, la fin de l'Empire soviétique et l'éclatement de la Yougoslavie. Les nationalismes déchirent l'unité du territoire et la violence éclate. Slovènes contre Serbes, Serbes contre Croates, puis Serbes et Croates contre Bosniaques, avant que le Kosovo ne s'enflamme à son tour. Après cette terrible expérience de la guerre civile, où tout est permis pour débarrasser son territoire de la présence de l'autre, les Nations Unies demandent à la Fondation Hirondelle d'intervenir en créant un média de la paix pour tous les Kosovars. Écoutez Dick Marty, membre du conseil de fondation d'Hirondelle.
Moi, ce qui m'a, je ne dis pas étonné, mais choqué, c'est la haine interethnique qu'il y avait sur place, quelque chose de tout à fait irrationnel. Et voilà que faire cette rédaction multiethnique est un signal absolument formidable. Et nous avons besoin de messages pareils. C'est un peu comme l'orchestre qui a été créé avec des Palestiniens et des Israéliens. C'est ce genre de choses qu'on a besoin.
Les exactions sont rapportées dans les deux langues.
Même version dans les deux langues. Le journal serbe est traduit de l'albanais, car en ce moment, il est pour ainsi dire impossible d'envoyer des journalistes serbes en reportage à travers le Kosovo.
Ici, dans la rédaction, la cohabitation se passe extrêmement bien. C'est vraiment formidable de voir ces jeunes qui travaillent ensemble, malgré tout cet environnement de haine et de revanche. Eux, ils sont là, ils rigolent ensemble, ils travaillent ensemble. Vraiment, c'est bien.
Sur le terrain, au Kosovo, l'existence même de cette radio était un message qui s'adressait à la rationalité des gens. Dit, hey, dis donc, mais la haine que je ressens pour l'autre, tout simplement parce qu'il est d'une autre ethnie, est-ce que c'est pas quelque chose d'absurde.
L'expérience de la mixité, c'est celle des journalistes de la rédaction de Radio Blue Sky, mise en œuvre par la Fondation Hirondelle, Jean-Marie Etter, dont vous étiez déjà le président à l'époque. Alors j'aimerais que l'on revienne sur la formation des journalistes kosovars, qui sont aussi des hommes, des femmes directement concernés par une guerre civile. Ils ont perdu des maris, des sœurs, des enfants dans les massacres. Comment vous les faites coexister? Comment vous travaillez concrètement? Et déjà, comment vous recrutez? Comment ça se passe?
Le recrutement, c'est des avis que nous faisons parvenir à travers les réseaux de journalistes. Il y a déjà des radios à travers les radios, les journaux, peu importe. Et ensuite, nous veillons essentiellement à la maîtrise des différents instruments du journalisme, du savoir-faire journalistique, et qui est parfois très faible, parfois très fort, ça dépend, au souci éthique. Je veux dire que ce qui est essentiel, c'est tout de même pour nous un type de journalisme qui est un journalisme de rigueur, et de rigueur sans commentaires, avec des règles extrêmement précises.
On distingue donner l'information et donner son opinion, c'est pas du tout la même chose.
Absolument, absolument, et nous ne donnons pas nos opinions. J'estime que dans des terrains de conflit, nos opinions n'intéressent personne. Ce qui est intéressant, en revanche, ce sont les opinions des acteurs. Donc nous allons essayer de favoriser des débats. Mais ensuite, les tendances opposées sont représentées dans la rédaction. Et cela a toute une série de vertus. La première, c'est d'abord la preuve que ces journalistes ont un attachement à leur métier, à la pratique de ce métier qui les réunit, et qui les réunit très fort, qui est souvent plus fort que d'autres barrières. Ensuite, il y a quand même un autocontrôle extraordinaire. On parle dans les langues des pays où nous travaillons, d'habitude ni le français ni l'anglais, même si on a du français ou de l'anglais, mais dans ces langues-là, il faut que les gens puissent se contrôler, et que celui qui appartient à telle communauté puisse dire à l'autre, dis donc, t'as utilisé ce mot-là, mais tu te rends pas compte. Pour nous, ce mot-là, il est blessant. Ah oui, d'accord. Alors attention, on va utiliser un autre mot. Et c'est comme ça que se développe ce langage qui est acceptable par tout le monde à l'intérieur d'une rigueur factuelle.
Autre expérience africaine en République démocratique du Congo. Nous sommes en 2002 et c'est la plus grosse opération de maintien de la paix de l'histoire des Nations Unies. Hirondelle est alors sollicitée pour créer une radio afin de favoriser le dialogue entre Congolais. Radio Kapi.
C'était en 2004, donc c'est toute l'aventure de Radio Okapi à Kinshasa, où j'ai eu la chance d'être à la tête d'une équipe extrêmement nombreuse et performante.
Yves Laplume, journaliste formateur pour la Fondation Hirondelle.
J'étais sidéré de constater, de voir une situation chaotique dans ce pays, et puis le travail que fait Radio Okapi, qui est devenu une référence, une institution par laquelle non seulement les autorités, les responsables passaient pour pouvoir s'exprimer, mais surtout la confiance invraisemblable de la population. Les gens qui chantent vos jingles dans la rue, c'est quand même assez étonnant. Vous passez de l'aéroport de Bukavu jusqu'à la ville et puis vous entendez l'émission qui passe sans mettre la radio dans la voiture parce que tout le monde écoute le long de la route. Bon, ça c'est absolument formidable. Ce qui est formidable surtout, c'est le travail qui est fait, parce que c'est exigeant dans un pays où effectivement la presse est totalement aux mains de différents pouvoirs. Et de travailler, de faire de l'information en toute indépendance, sérieusement, professionnellement, ça a eu un impact considérable. Et donc le sommet, j'allais dire, de cette période-là, c'est les élections de 2006, avec un rôle là aussi majeur de la radio. Des moments très difficiles, parce qu'il y a eu des combats entre les factions de Jean-Pierre Bemba et de Joseph Kabila, donc il a fallu dormir dans la radio, produire des émissions non-stop, en ne pouvant pas sortir, donc en inventant toutes sortes de situations pour pouvoir être rigoureux, crédible, etc., responsable, et jusqu'au scrutin qui a été à la fois un grand moment de la vie de la République démocratique du Congo, et puis de Radio Okapi, évidemment, et de toute l'équipe qui était là.
Que tout le monde sache que la Radio Okapi, c'est la radio la plus suivie vraiment des Congolais.
Partie importante du problème de l'insécurité en République démocratique du Congo, a déclaré hier lundi à Genève.
La deuxième chose qui m'a marqué, c'est l'assassinat de Serge Maheshe, un des journalistes de Radio Okapi, qui était aussi un ami, du coup, vous voyez. Et voilà, c'était juste un mois avant que je parte, que je laisse la place. C'était une grande douleur. Et voilà, aussi beaucoup de choses que j'ai pu apprendre à ce moment-là.
RDC, un journaliste congolais de la radio Okapi, parrainé par l'ONU, a donc été abattu par balle hier soir par des inconnus à Bukavu, dans l'est du pays. Dida Namu Jimbo rentrait à la maison hier soir, on l'a abattu à quelques mètres de chez lui, Christine Muraté.
Oui, d'après des voisins de Dida Namu Jimbo, il était 21h lorsqu'un coup de feu a été entendu dans la rue, mais en raison de l'insécurité qui règne sur la ville, plongée dans le noir à cette heure-là, ce n'est que ce matin vers 6h que le corps du journaliste a été retrouvé sur place, baigné dans son sang, à moins de 100 mètres de chez lui. Une autopsie devrait...
Deux journalistes de Radio Okapi assassinés en 2 ans, 2007-2008. Est-ce que, en tant que Fondation Hirondelle, vous vous sentez responsable ?
On a toujours une part de responsabilité, dans la mesure où nous créons, et c'est notre but, des institutions qui font ce travail d'information, et nous savons, les journalistes qui travaillent avec nous et nous, que c'est le risque maximum, mais que nous le courons. C'est toute la problématique d'une institution qui travaille en zone de crise, de guerre. Et évidemment, aujourd'hui, depuis quelques années, les risques se confirment, je dirais, ou augmentent. Et RFI l'a vu avec Ghislaine Dupont, qui a aussi travaillé avec nous. c'est difficile de passer comme ça là-dessus. C'est un j'ai un membre du conseil de fondation qui a longtemps été directeur des opérations du CICR et qui me disait il y a plusieurs années, c'est un risque que vous devez savoir prendre, vous les responsables de la fondation et les rédactions. Je dirais que les rédactions le prennent l'assument, je dirais, encore beaucoup plus que nous. Les journalistes qui sont sur le terrain savent quels sont les risques qu'ils courent. Ça ne veut pas dire qu'ils les prennent à la légère. Ce sont des risques énormes. Mais vous ne pouvez pas non plus dire « on abandonne ». Plus le danger est grand, plus il y a des raisons pour lesquelles il est grand, plus il y a une conflictualité, donc plus il y a de raisons d'être présent et de faire ce travail de journaliste. Donc aussi bien pour nous que pour les journalistes sur le terrain, oui, on sait que le risque est là et on est décidé à le prendre.
Et pour votre confrère Yves Laplume, le plus grand échec au fond, c'est justement d'abandonner. Il se souvient de l'expérience de Radio Miraya au Sud-Soudan, un projet démarré en 2006.
Alors, mon premier grand regret, c'est on a été obligé d'abandonner notre partenariat au Sud-Soudan. Alors, j'ai vécu là aussi 4 mois absolument extraordinaires. C'était au moment de l'indépendance, donc j'ai vécu l'indépendance. Et nous l'avons retransmise en direct avec toute une équipe de journalistes qui n'avaient jamais fait d'études de journalisme. Là, on les a vraiment recrutés sur place, qui avaient fait quelques études à l'université. Dormant dans des containers, dans une situation de confort, on va dire très minime. Et on a fait un travail remarquable. Cette radio est devenue, comme Radio Capi, la radio de référence. Il y avait 75% d'audience. Et puis un jour, au moment de la crise, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes façons de voir avec le partenaire le traitement de l'information. Et on a arrêté. Le partenariat s'est arrêté. On a été obligé de partir. Et ça, je regrette beaucoup parce que on a une équipe là-bas qui a appris, j'espère continue, mais ça me fait de la peine, oui, d'avoir abandonné un peu cette équipe d'une certaine manière.
Vous écoutez RFI, La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Nous revivons 20 ans de radio en temps de crise, 20 ans de joie, de liberté d'informer, de crédibilité, mais aussi 20 ans de peine, de violence ou d'assassinat.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il y a deux sortes de journalistes au Mali. Il y a des gens qui l'ont appris sur le tas, qui ne sont pas formés pour cela, qui jouent un peu à la propagande. Dès qu'on leur donne un peu d'argent, ils font l'éloge de la personne, sans pour autant chercher à comprendre ce qui se passe derrière. Donc les politiciens les manipulent à tort et à travers. Donc ça, c'est une première catégorie de journalistes qui n'est pas formée et qui ne marche qu'avec l'argent. La deuxième catégorie, ça, c'est les journalistes formés.
Les journalistes formés mènent sans tabou leurs investigations. Par exemple, sur le meurtre au nord du Mali des deux journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Ghislaine, une ancienne collaboratrice de la Fondation Hirondelle.
En plein exercice de leurs fonctions, Ghislaine et Claude ont été tués le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le nord-est du Mali. Peu après avoir été enlevés par un petit groupe d'hommes armés, Al-Qaïda ou Maghreb islamique a revendiqué leur assassinat. Le parquet de Paris a ouvert au printemps 2014 une information judiciaire sur cet assassinat. Alors aujourd'hui, Serge Daniel, que sait-on de cette affaire depuis un an que ça dure ?
Écoutez, il y a beaucoup de questionnements. Ce qu'on sait, c'est que le 2 novembre à Kidal, ils ont été enlevés, Gigi et Claude ont été enlevés à la sortie de cette interview.
La particularité des studios Tamani, sur l'initiative de la Fondation Hirondelle au Mali, est particulier. Ailleurs, ils ont une radio. Ici, c'est un studio de production qui propose un produit efficace dans plusieurs langues du pays, à des radios sur le territoire national. C'est génial. Vous avez à peine un ou deux expatriés excellents, je les connais, et vous avez une rédaction malienne. Je peux vous dire par exemple que les studios Tamani de Bamako, c'est la salle de rédaction la plus fréquentable de Bamako. J'espère que les autres ne m'écoutent pas. Mais je pense franchement à ce que je vous dis. Ils ont le matériel qu'il faut, ils en font le montage, ils vont en rédaction. Il y a des conférences de rédaction régulières. C'est vraiment ce qu'il faut. C'est-à-dire ce sentiment de permettre à former des journalistes africains qui diffusent eux-mêmes l'information. Et là, vous voyez des gens qui arrivent pour donner des cours ex cathedra. Je trouve ça original pour de la part de la Fondation Hirondelle.
Au studio Tamani, l'animateur du programme phare Le Grand Dialogue, c'est Famoussa Sidi Bé.
Le journalisme qu'on pratique actuellement a beaucoup plus de crédibilité aux yeux de la population. Et on est beaucoup plus écouté. Ce qu'on dit est respecté et écouté. Il y a de la valeur dans ce qu'on dit. Après, la politique, c'est l'économie qui intéresse les gens. Et en dehors de ça, il y a la sécurité. Et souvent, c'est objet à débat. On appelle la police, on appelle la gendarmerie, et la société civile. Tout le monde en parle. Quels sont les manques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde donne ses solutions et puis voilà.
Et puis voilà, grâce à l'émission phare de Studio Tamani, Le Grand Dialogue, la culture du débat démocratique s'instaure peu à peu. Au sein de la rédaction, composée de journalistes de toutes origines d'abord, sur les ondes ensuite.
Bonsoir Salimata.
Alors Lucille, ce soir?
Alors ce soir, Salimata, c'est un jour sans, mais plein d'enseignements, car hier c'était le jour anniversaire, la date anniversaire du double meurtre des deux journalistes français de RFI qui ont été tués à Kidal. J'estime que moi,
vous allez travailler au Mali,
débat.
On aura dit bah,
je contribue
non, il y a pas
un tout petit peu
il y a une multitude de médias, c'est le paysage médiatique radiophonique le plus riche et divers d'Afrique de l'Ouest.
Dans tout le pays.
Les journalistes sont formés.
Je partage un peu cet espoir personnel que j'ai avec tous les auditeurs qui m'écoutent.
De l'aide, parce que là aussi leurs repères ont changé, ils sentent que l'information est en danger. D'avoir une rédaction à l'image du pays, ce qui n'existait pas en fait jusqu'à maintenant. De produire dans les langues nationales, de remettre les Maliens ensemble par les ondes. Et les premières émissions, elles étaient... On sentait l'émotion dans la voix des journalistes avant Tamani.
Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Remettre les Maliens ensemble par les ondes, nous dit Caroline Villemain, chef des opérations de la Fondation Hirondelle, au sujet du studio Tamani à Bamako. Et je salue tous nos auditeurs au Mali, quels qu'ils soient. Alors c'est ce que vous appelez à la Fondation Hirondelle une opération en cours. Ça veut dire quoi ça, une opération en cours?
Ça veut dire qu'il y a des opérations qui se sont arrêtées, faute de financement. D'habitude, c'est faute de financement. Parfois, c'est parce qu'elles étaient terminées. Mais comme nous essayons de créer des institutions que nous remettons aux journalistes locaux et à des entrepreneurs locaux, le plus souvent, ce sont effectivement des opérations que nous avons dû arrêter faute d'argent. Et les autres, ce sont les opérations qui sont actuellement en train de se dérouler, comme Tamani, par exemple.
C'est-à-dire que le but, là, c'est de consolider cette rédaction, parce que votre but, Fondation Hirondelle, c'est pas de rester, c'est de passer le relais, justement, à ces journalistes que vous formez. Mais comment ensuite font-ils pour financer leur radio?
Toute la question est là. Et on parle évidemment toujours beaucoup de formation, c'est essentiel, mais pour moi, la formation est pas le problème principal. Le problème principal, c'est la solidité économique d'un média. Et d'ailleurs, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou dans les pays où nous travaillons, c'est là que se trouve le problème principal. Alors, évidemment, pour les médias avec lesquels nous travaillons, ou bien pour nos médias, c'est comme partout, une régie publicitaire qui va essayer de générer des revenus publicitaires. Mais déjà chez nous, ça ne suffit pas, ici en Europe. Alors, comment est-ce que ça suffirait dans des économies qui sont en crise? Donc, il faut encore trouver d'autres solutions qui sont d'un soutien international qui devient, le soutien étatique international devient de plus en plus difficile. Les États sont de plus en plus frileux. Il y a une préoccupation sécuritaire qui est à rebours du bon sens. On essaye de se protéger chez nous,
oui,
au lieu d'aller voir ailleurs et d'écouter ailleurs ce qui se passe.
Donc c'est aussi en participant au développement dans les pays que l'on va finalement garantir une sécurité chez nous en ce qui concerne l'Europe. C'est ce que vous voulez dire?
Absolument. Certainement, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est l'un des moyens, évidemment. Et donc, la solidité économique de ces médias est l'un des problèmes majeurs que nous avons à résoudre. Et du coup, il y a énormément de choses. Si on parlait de ce qu'on appelle le coupage tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement un journaliste qui va interviewer quelqu'un et qui se fait payer par cette personne pour son interview, il va pas en dire du mal, évidemment. Mais comprenez que le journaliste n'a rien, il a peut-être pas salaire du tout. Il doit bien vivre et faire vivre sa famille. Donc il faut pas simplement me condamner en disant c'est tout. Mais non, il y a des réalités économiques derrière. Et moi, je pense que l'une des solutions sur lesquelles nous sommes en train de travailler actuellement, c'est d'avoir des gens qui aident, soit localement, dans des clubs d'auditeurs, soit par exemple à travers les Amis de la Fondation Hirondelle, qui est une association que nous avons créée maintenant, et qui regroupe des Européens, des Suisses, des Français, qui aident la Fondation à faire son travail, mais qui réfléchissent aussi sur le rôle des médias, que ce soit en zone de conflit, que ce soit en zone de développement, que ce soit chez nous.
Et pour Caroline Villemain, le problème essentiel aujourd'hui est celui des inégalités sur la planète.
Ces 20 dernières années, c'est avant tout des problèmes d'inégalité, du fait qu'il y en a qui ont et qu'il y en a qui n'ont pas. Et ça, la tendance, elle se confirme. Et ces inégalités économiques et sociales, c'est le terreau à des prises de position de plus en plus radicales, où rassembler les gens autour d'une vision commune ou d'un destin commun est de plus en plus difficile.
Jean-Marie Ether, quels sont les enjeux, j'allais dire, du 21e siècle pour la Fondation Hirondelle, avec la multiplication des crises, l'impact croissant d'Internet sur ces crises? En gros, vous allez passer le bébé, le relais à Caroline Villemain. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quels sont les enjeux aujourd'hui pour la Fondation Hirondelle?
On vit dans un environnement, tout le monde le sait, qui est en train de se radicaliser. Et il y a des réflexes d'autodéfense contre cette radicalisation, des réflexes d'autodéfense des nantis contre ceux qui ne sont pas nantis et les endroits où se passent les révoltes. Je crois qu'énormément de choses se jouent à cet endroit-là. Nous sommes convaincus que nos valeurs sont universelles. Je le crois aussi, par exemple, dans la pratique journalistique, il y a des choses qui sont universelles, et je les défends bec et ongle, mais est-ce que nous-mêmes nous respectons nos valeurs universelles? Je n'en suis pas sûr. Et nous ne sommes à cet égard, je parle des Occidentaux, des Européens, nous ne sommes certainement pas des modèles. Nous ne pouvons pas nous poser en donneurs de leçons. Nous devons écouter beaucoup plus. Nous devons proposer et nous devons aussi faire valoir notre réalité. Mais nous devons l'expliquer. Elle n'est pas comprise, notre réalité. Et là, il y a un énorme effort de dialogue, d'échange, d'écoute autour de valeurs mondiales à reconstruire, puisque nous sommes bien dans un village planétaire. Ben oui, nous y sommes, et ce village va mal. Donc il faut un peu le réinventer, et on ne pourra pas le réinventer à partir de nous tout seuls. Il ne faut ni nous nier, nous sommes ce que nous sommes, et heureusement, mais il ne faut pas non plus nous imposer absolument à l'ensemble de la planète. Et je pense par exemple à la démocratie américaine, magnifique, sauf que les États-Unis élisent quand même un président que le monde entier va subir et qui va déterminer le destin du monde entier.
Vous pensez par exemple à un Donald Trump qui s'en prend ouvertement aux musulmans partout dans le monde, et y compris aux États-Unis?
Bien sûr, mais pas nécessairement seulement à lui. Je dis, peu importe finalement, il y a quelques centaines de millions d'Américains qui, démocratiquement, élisent le destin du monde. Oui, c'est comme ça, d'accord, mais ça devrait nous faire réfléchir. Je repense à la démocratie grecque, mais en Grèce, tout le monde n'était pas un homme libre qui pouvait élire la vie de la cité.
Donc au fond, le bilan que tire à titre personnel, et que vous souhaitez partager avec tous nos auditeurs, Jean-Marie Ether, c'est de dire finalement cette radio de la paix, cette radio de la réconciliation qu'on a essayé de mettre en œuvre, d'aider à mettre en œuvre un peu partout dans le monde, ces principes éthiques, commençons par nous les appliquer à nous-mêmes, à oui. nous les Européens par exemple, à nous les Occidentaux.
Oui, je crains de ne pas être très modeste, mais je pense que nous avons besoin de modestie. Oui.
Merci Jean-Marie Ether d'avoir joué le jeu de cette rétrospective 20 ans de radio en temps de crise pour cette journée mondiale de la radio. Merci Cécile Pompéani pour la réalisation de cette émission avec la complicité de Marie-Pierre Olfan, reportage pour nous à Niamey, au Niger. Que vous soyez au Mali, en RDC, en Centrafrique ou ailleurs, écrivez-nous marche.monde@rfi.fr et débattez sur la liberté d'informer sur notre page Facebook. N'oubliez pas de podcaster cette émission, c'est la vôtre.